Frères et sœurs, nous voici accueillis par notre organisme, par notre cœur, figure peut-être de cet accueil gracieux, accueil de Dieu qui se réjouit de nous voir réunis. C'est de lui que nous recevons la grâce et la paix ce matin encore, dans notre cœur, dans notre vie. Moment de grâce parce qu'il nous est donné d'accueillir aussi le pasteur Richard Cadou, pasteur à Vernoux. C'est un familier du lieu, mais qui a pris quelques distances géographiques pour porter l'Évangile au-delà des boulevards des Maréchaux. Nous avons aussi le plaisir de nous accueillir les uns les autres, que nous soyons des piliers de cette paroisse ou des nouveaux venus. Le plaisir de nous accueillir, nous qui avons des liens ancestraux avec cette paroisse, je pense à la famille Monod, ou nous qui avons tout simplement le désir de trouver une place, de trouver notre place. Oui, avant que nous le cherchions, Dieu nous a trouvés. Avant que nous le connaissions, il nous a connus. Avant que nous venions ici, il nous a invités. Que ce culte soit un temps où nous pouvons répondre à cet appel, appel à vivre un amour inconditionnel en présence des frères et des sœurs qui nous sont donnés. Je vous propose de nous lever pour chanter Dieu avec le premier répond indiqué dans notre livret liturgique. Nous louons Dieu. Éternel notre Dieu, nous te rendons grâce pour cet appel que tu nous as lancé aujourd'hui encore. Nous te rendons grâce de faire de nous une communauté, un peuple, ta famille. Nous te rendons grâce de nous donner ces frères, ces sœurs, avec lesquels nous pouvons porter notre existence à son incandescence. Oui, nous te rendons grâce de nous faire vivre une existence plus forte, plus haute, plus large que ce que nos rêves nous donnent à espérer. Nous te rendons grâce de renouveler notre espérance. Nous te rendons grâce de renouveler notre enthousiasme. Nous te rendons grâce pour tout ce que tu as fait parmi nous, par tout ce que tu continues à nous prodiguer, par tout ce que tu nous donnes à éprouver et à envisager. Amen. Poursuivons notre louange par le chant du psaume 67, dans son harmonisation genevoise, donc le psaume 67b. Nous chanterons les strophes 1 et 2 dans notre psautier. Prenons place. Il est dans le livre de Coëlette, parfois plus connu sous le nom d'Ecclésiaste, cette phrase « Jette ton pain à la surface des eaux. Avec le temps, tu le retrouveras. Jette ton pain à la surface des eaux. » Eh bien, le prophète Ésaïe nous aide peut-être à comprendre ce que signifie ce geste de jeter son pain à la surface des eaux. Lorsque le prophète Ésaïe dit que le culte qui plaît à Dieu est celui-ci, brise les chaînes injustes, dénoue les liens de tous les jougs, délivre ceux qu'on opprime, met fin à tout esclavage, partage ton pain avec celui qui a faim, recueille dans ta maison le malheureux sans abri, couvre celui qui a froid, ne te détourne pas de celui qui est ton frère. Nous nous recueillons dans la prière. Éternel notre Dieu, nous avons souvent entendu ta parole, nous l'avons peu écoutée. Nous avons beaucoup prêché la liberté, nous l'avons rarement vécue. Nous avons appelé les autres à la paix. Et l'avons-nous manifesté, cette paix ? C'est là la distance qui nous sépare de ce que tu donnes à vivre et de ce que nous vivons effectivement. C'est là notre péché. Alors, pour n'avoir pas écouté ta parole, pour n'avoir pas vécu en homme libre, pour n'avoir pas agi en ouvrier de paix, pardonne-nous, accorde-nous ta grâce. Amen. À lire et à relire les évangiles, nous constatons que Jésus ne parle pas tant de la justice que du royaume de Dieu. Il parle du projet de Dieu en voie de réalisation, en voie d'accomplissement, en voie d'incarnation. En tous les cas, il ne parle pas d'un Dieu justicier, il parle d'un Dieu autre, un Dieu qui se rend autre, un Dieu qui aime et qui pardonne. Amen.
Amen.
Et c'est cette découverte d'un Dieu auquel Jésus rend témoignage dans les évangiles qui nous invite à exprimer notre foi en ces termes. Je crois en Dieu qui vient vers nous avec amour. Il n'est pas resté dans une majesté solitaire. Il a créé le monde, il continue à le créer et il fait l'homme son vis-à-vis, son associé. Et il s'engage avec nous dans l'aventure humaine. Je crois en Dieu qui vient vers nous avec amour. Il ne nous abandonne pas à notre révolte, à une forme de perdition. En Jésus, il a partagé notre humanité. En Christ, il a vaincu la mort et il rend en permanence l'humanité à l'espérance qu'il forme pour elle. Je crois en Dieu qui vient vers nous avec amour. Jour après jour, il est présent parmi les hommes, dans son Église, par son Esprit, pour apaiser nos craintes, pour guider nos hésitations, pour affermir notre foi, pour animer notre vie et nos actes. Oui, je crois en Dieu qui vient vers nous avec amour. Amen.
Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. J'ai retenu comme lecture pour ce culte aujourd'hui un passage de l'évangile de Marc au chapitre 12, les versets 38 à 44 et au chapitre 13, les versets 1 à 3. Jésus disait dans son enseignement « Gardez-vous des scribes. Ils désirent se promener en robe longue. Ils désirent les salutations sur les places publiques, les premiers sièges dans les synagogues, les premières places dans les repas. Ils dévorent les maisons des veuves et font pour l'apparence de longues prières. Ils subiront une condamnation particulièrement sévère. Assis vis-à-vis du tronc, Jésus regardait comment la foule y jetait de l'argent. Plusieurs riches jetaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve et il y jeta deux petites pièces faisant un quart de sou. Alors, Jésus appela ses disciples et leur dit « En vérité, je vous le dis, cette pauvre veuve a jeté plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont jeté de leur superflu, mais elle a jeté de son nécessaire tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit « Maître, regarde, quelle pierre, quelle construction !» Jésus lui répondit, « Vois-tu ces grandes constructions ? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Et Jésus s'assit sur le mont des Oliviers, en face du temple. « Ta parole est une lampe à mes pieds, elle est une lumière sur ma route. » Et nous allons chanter le cantique 175, les strophes 1 et 2, cantique 175. Je vous invite à vous lever. Aujourd'hui, Seigneur, nous avons tout à apprendre de ta parole. Débarrasse-nous des explications toutes prêtes qui nous empêcheraient d'être à l'écoute de son appel. Donne-nous de la recevoir comme si nous la découvrions pour la première fois. Que par ton esprit, elle devienne bonne nouvelle pour nos vies. Mes grands-parents vivaient dans un monde où l'on ne jetait rien. Ils ne jetaient rien car ils vivaient dans un monde de pauvres et de pauvreté où tout était utilisé jusqu'au bout et où les choses qui n'étaient pas usées étaient susceptibles de recevoir un jour ou l'autre une autre utilisation. Ce monde est révolu. Aujourd'hui, tout est jetable. Les mouchoirs, la vaisselle, que sais-je encore. Jeter est entré dans les mœurs. Jeter est devenu un usage du quotidien. Vous aurez peut-être remarqué que ce verbe « jeter », « ballo »,« baleine » en grec, revient à 7 reprises dans le court récit consacré à l'obol de la veuve. La foule jette dans le tronc, des riches jettent beaucoup, une veuve jette 2 petites pièces, Le Christ dit qu'elle a jeté plus que tous ceux qui jettent dans le tronc. Tous ont jeté du superflu, mais elle a jeté tout ce qu'elle possédait. Alors les questions surgissent. Que faut-il jeter? Où faut-il jeter? Comment faut-il jeter? Eh bien, c'est à la lumière de ces interrogations que je vous invite aujourd'hui à relire le récit de Marc. La scène se passe à Jérusalem, au dernier jour de la vie et du ministère de Jésus, peu avant son arrestation. Jésus est monté au temple, comme il avait coutume de le faire, et sur le parvis, il enseigne. Il s'accroche d'ailleurs assez violemment avec ses adversaires, et voilà qu'il fait une pause. et il vient s'asseoir en face du trésor du temple, à l'endroit précis où les pèlerins viennent déposer leurs offrandes. Il y a de l'argent pour les sacrifices, pour l'entretien des bâtiments, pour le financement des prêtres, des lévites et du personnel du sanctuaire. Et les fidèles d'Israël donnent. Et voilà qu'une femme arrive. Elle est veuve. Elle est le symbole même du malheur et de la dégringolade au bas de l'échelle sociale. Pauvre parmi les pauvres. Dans le tronc, nous dit l'Évangile, elle jette 2 leptes, de la très petite monnaie, une somme infinitésimale. Imaginez un paroissien qui, pour régler sa cotisation, remettrait au trésorier 2 pièces jaunes d'un centime d'euro. Jésus regarde et il commente la scène. Cette pauvre veuve a jeté plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont jeté de leur superflu, mais elle, elle a jeté de son nécessaire. Tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre, amen, amen, je vous le dis. Cette formule solennelle est là pour nous indiquer que ce qui vient de se passer est important pour les disciples et qu'il y a là un enseignement qui nous concerne tous. Oui, à ce moment-là, Christ a constaté, il a évalué, mais il nous laisse la liberté entière d'interpréter ce geste. L'attitude de la veuve nous concerne et c'est à chacun d'entre nous d'en tirer la leçon. Alors je vous propose maintenant 3 pistes de lecture de cet évangile. Je vous inviterai tout d'abord à admirer cette femme dans sa manière de donner. Jésus le dit, la foule se presse aux abords des troncs, il y a des riches. Plusieurs d'entre eux donnaient largement. Ils sont généreux, ils jettent avec libéralité et c'est très bien. Et puis la femme arrive, elle a 2 pièces, elle aurait pu en garder une et jeter l'autre dans la corbeille. Elle aurait pu agir ainsi comme les riches, en prenant sur sa pauvreté comme eux ont pris sur leur abondance. Mais non, Jésus précise, elle a jeté tout ce qu'elle avait pour vivre. C'est le beau geste par excellence, le geste de celui qui y met tout son cœur, tout son amour, qui donne tout. Bernard de Clairvaux a écrit « La mesure de l'amour, c'est de donner, c'est d'aimer sans mesure. » Oui, on ne peut pas aimer sans un grain de folie. Et il y a dans le geste de cette femme une dimension d'excès, de radicalité, d'authenticité totale, sans le moindre calcul, sans aucun retour sur soi. Tout donner, sans repentir, sans filet, serait-ce le secret de la vie? Alors que bien sûr, je fais tout le contraire. Épargne logement, assurance vie, retraite par capitalisation, c'est bien sûr, on nous l'a appris, il est raisonnable de garder une poire pour la soif, c'est la vertu de prudence. Mais, frères et sœurs, la véritable paix serait-elle dans le don total? Oui, la veuve nous donne à voir ce qu'est l'amour dans sa pureté absolue, dans ce qu'il peut avoir de démesuré, d'excessif. Et Paul l'a écrit dans la première lettre aux Corinthiens, « Quand je donnerai tous mes biens aux pauvres, si je n'ai pas l'amour, je suis comme une cymbale qui résonne. Cela ne me sert de rien. » Oui, je vous invite, frères et sœurs, à admirer cette femme et à faire son éloge. Mais j'aimerais aussi vous proposer un autre regard, une deuxième piste en quelque sorte. Je vous invite maintenant à vous indigner, car je constate ceci dans le même temps. Jésus ne nous propose pas cette femme en modèle. Il n'invite pas à imiter la veuve. Il n'est pas dit qu'il la regarde et qu'il se mette à l'aimer. Il ne recommande pas de faire de même. Il ne précise pas qu'elle serait proche du royaume de Dieu. Oui, il est possible d'explorer un autre chemin que celui de l'éloge. J'emprunterai la piste de la pitié et de l'indignation. Oui, je vous invite maintenant à prendre cette femme en pitié. Marc a placé ce court récit entre une invective contre les scribes et l'annonce de la destruction du temple. Jésus, en effet, vient de dénoncer tous ces religieux hypocrites qui se servent de Dieu pour leur propre gloire. Et il a dit notamment qu'ils dévorent les maisons des veuves. Comment alors le spectacle de cette femme pourrait-il le réjouir ? Jésus vient également de chasser les marchands du temple, tous ceux qui ont fait de la maison de son père une officine de négoce et de trafic. Jésus n'arrête pas de critiquer le temple et son économie, qu'il remet en cause de manière radicale. Et on peut s'indigner de voir comment est exploitée la générosité et la droiture d'une femme dont la pauvreté, finalement, va engraisser des bigots, pour ne pas dire des tartuffes. Pourquoi se fait-il, en effet, que la religion et le commerce fassent si bon ménage, en fin de compte ? Pourquoi les religieux sont-ils si habiles à faire de l'argent avec le divin ? La réforme, initiée par Martin Luther, a commencé, ne l'oublions pas, par un rejet des indulgences, ce commerce de la grâce de Dieu, une grâce absolument gratuite, mais que l'Église de son temps s'était mise à tarifer. Oui, Jésus nous invite à nous scandaliser d'un système religieux qui exploite une pauvre femme. Ce don fait à un temple géré par des malhonnêtes a quelque chose de dérisoire et de répulsif. Cette veuve, elle est en train de se faire avoir. Sa piété l'aveugle, et ça serait bien plutôt aux autorités du temple de lui venir en aide et de rendre ainsi à Dieu un culte en esprit et en vérité. Oui, chers amis, ce récit évangélique est aussi une invitation au discernement. Méfions-nous de la religion qui peut très facilement devenir un système d'exploitation de l'homme par l'homme. Oui, il y a dans la parole de Jésus une ironie douloureuse. Lui qui sait ce qu'il y a dans le cœur des hommes. Et il met en valeur le geste d'une pauvresse qui accomplit une démarche coûteuse et inutile en faveur d'un système qu'il condamne et dont il annonce déjà la fin. Car ce temple dont les disciples admirent les pierres et la construction, il va bientôt être détruit, nous dit-il. Et je voudrais maintenant explorer une troisième et dernière piste, en vous invitant à porter votre regard sur Jésus lui-même. Car ce récit comporte une dimension de révélation. Par son geste, en effet, cette femme révèle à Jésus sa propre vocation. Jésus la regarde. Elle a donné toute sa vie. Et le Christ, alors, reconnaît en elle sa propre destinée. Lui aussi, dans quelques heures, entre Gethsémané et Golgotha, il va tout donner. Il va prendre de son indigence et il va livrer sa vie. Jésus n'a pas à donner cette femme en modèle, car c'est lui qui va l'imiter. Le don total de la veuve symbolise et annonce de manière prophétique le don que Jésus va accomplir sur la croix. Jésus, à son tour, va jeter sa vie, toute sa vie, dans la béance de la mort, sans calcul, sans retour, sans autre assurance que la promesse de vie que Dieu adresse gratuitement à tout homme venant en ce monde. Oui, le don de la veuve n'est pas raisonnable, pas plus que celui de Jésus ne paraissait raisonnable à Pierre, qui s'est mis à faire des reproches violents à son maître lorsque celui-ci a évoqué sa passion à venir. Oui, à ce point, frères et sœurs, nous n'avons rien à imiter. Jésus a tout donné pour tous et pour toujours. Et à cette aune, toutes nos œuvres sont dérisoires. Mais une question se pose alors. Que va-t-il se passer pour la veuve lorsqu'elle quittera le temple? Qu'adviendra-t-il de Jésus lorsqu'il aura tout donné? Qu'adviendra-t-il de nous autres qui avons placé notre confiance en lui? Ce court récit, en fin de compte, il éclaire le chemin du Christ. Il éclaire aussi notre propre chemin. Il fonctionne à plusieurs niveaux. Il fait l'éloge des gestes vrais. Il nous invite à l'authenticité. Il dénonce les systèmes religieux aliénants qui n'ont rien à voir avec la foi. Il interprète le geste de la veuve comme l'annonce d'une vie donnée. Voyez-vous, il nous appelle à jeter notre confiance en Jésus. Lui dont la condition était celle de Dieu, qui s'est anéanti jusque la mort et la mort sur la croix, mais que Dieu a exalté pour lui confier le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Nous allons chanter le cantique numéro 80, « Tu m'as aimé, Seigneur », les trois premières strophes, « Tu m'as aimé, Seigneur », le numéro 80. Et je vous invite à vous lever.
Prenons place, chers amis. Quelques nouvelles à partager dans notre calendrier. Vous rappelez que demain, lundi à 19h30, se réunira le groupe de grec biblique débutants. Les réunions se passent à la maison presbytérale, aux 4 rues de l'Oratoire. Mercredi à 10h, le groupe protestant des artistes aura son cours de peinture hebdomadaire. Le soir, ici même, à 20h, il y aura une célébration œcuménique qui se fait essentiellement en partenariat avec l'église de Saint-Eustache, cette église avec laquelle nous avons des relations tout au long de l'année, et pas simplement lors de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens qui s'est ouverte hier. Et ce qui explique qu'aujourd'hui mon collègue Marc Pernaud soit à Saint-Eustache d'ailleurs. Donc mercredi à 20h, célébration œcuménique ici même. Samedi 25, ce sera le groupe d'hébreu biblique animé par Gilles Castelnau qui se réunira à 10h. Et dimanche prochain, culte présidé par Marc Pernaud. Et pensez à ne pas rentrer trop tôt chez vous, puisque c'est le dernier dimanche du mois. Il y a donc un verre fraternel qui sera servi de manière à ce que nous puissions faire connaissance. D'ores et déjà, je vous annonce ou vous rappelle que la semaine suivante, le mardi 28 à 20h, nous aurons une conférence débat animée par Philippe Godin et Jean-Pierre Rive, qui sera l'occasion d'accueillir le pasteur Vincent Hubach, pasteur au foyer de l'âme, qui s'intéresse beaucoup à la question du transhumanisme. Alors qu'est-ce que le transhumanisme? Eh bien d'abord, ce sera l'occasion de le savoir. Et puis, vous avez peut-être eu l'occasion d'entendre ses réflexions sur les améliorations techniques que l'on peut apporter à l'espèce humaine, et peut-être même aider l'être humain avec la robotique, au point où, c'est en quelque sorte une exclusivité que je vous offre de la part de Vincent Hubach, au point où l'on pourrait se demander si le mariage pour tous ne pourrait pas s'étendre au mariage avec les robots, les androïdes. Bon, bien sûr, je dis ça de façon un peu polémique pour susciter votre curiosité, votre intérêt, et faire en sorte que vous veniez mardi 28 à 20h, ce sera salle mono. Vous annoncez également par avance que le comité protestant des amitiés françaises à l'étranger organisera une soirée le samedi 8 février, ici même, à partir de 18h, autour de l'ouvrage réalisé par Christiane Guttinger et Hélène Guicharneau sur les temples et les églises luthériennes protestantes à Paris. Un ouvrage d'ailleurs qui est en vente au comptoir librairie. À 18h, il y aura une conférence illustrée par Hélène et par Christiane, qui sera suivie à 19h30 d'un dîner-buffet, et il convient de s'inscrire au préalable. Christiane Guttinger étant présente, vous pouvez le faire auprès d'elle, sinon au siège qui se trouve rue de Clichy. C'est maintenant le moment de l'offrande, temps heureux où vous pourrez non seulement donner le superflu, mais aussi le nécessaire. Thank you.
Frères et sœurs, au moment de célébrer ce repas, nous éprouvons le besoin de faire monter notre action de grâce. Nous nous unissons dans la prière. Oui, c'est pour nous bonheur et joie de te louer, Dieu notre Père, car tu nous donnes la vie, tu nous donnes l'espérance. Cela, nous le découvrons par ce récit qui nous indique de quelle manière tu as envoyé ton Fils, de quelle manière il est devenu notre frère, de quelle manière tu nous fais bénéficier de l'action de ton Esprit, de quelle manière il devient notre paix. C'est pour nous l'évangile de l'émerveillement, que toi, Seigneur, nous puissions t'appeler Père, et que le Christ Jésus soit le pain vivant donné au monde, que l'Esprit Saint demeure au plus secret de nous-mêmes. Aussi, nous t'adorons et nous te chantons. Amen. Dans la nuit où il fut livré, Jésus mangeait avec ses disciples et pendant le repas, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et il le leur donna en disant « Prenez, ceci est mon corps ». Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Il leur dit « Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour plusieurs. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau, avec vous, dans le royaume de mon Père. » Nous prions. Père, au moment de nous approcher de cette table, nous faisons mémoire des paroles et des actes de Jésus-Christ, de sa mort, de sa résurrection, et nous attendons son retour. Nous recevons de toi ce pain de vie destiné à la nourriture du monde. Nous recevons de toi la coupe d'alliance que tu offres pour la joie du monde. Tu nous rassembles, tu nous invites. Par ton esprit, renouvelle notre foi, afin que ce pain et ce vin soient les signes de la présence du Christ parmi nous. Fais toutes choses nouvelles dans notre cœur, dans le monde, de telle sorte que puisse s'accomplir l'espérance que contient cette prière que Jésus a enseignée à ses disciples, et que nous te disons en communion avec tous les membres de ton peuple, en nous levant. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Voici, dit le Seigneur, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Frères et sœurs, le Seigneur frappe à la porte de notre existence et nous sommes libres, libres de lui ouvrir et de souper avec lui et lui avec nous. Cette table est l'un des lieux possibles pour cette divine communion que chacun se sente appelé en sa conscience à former une table de la fraternité. Venez, car tout est prêt. Frères et sœurs, le pain que nous partageons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la coupe pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la coupe de l'Alliance Nouvelle. Frères et sœurs, regagnons nos places dans la joie du Seigneur ressuscité. Frères et sœurs, je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction de Dieu. Il est des bénédictions qui ne sont pas simplement des formules religieuses, il est des bénédictions qui sont des événements, des moments. Une bénédiction à laquelle nous avons participé, c'est la présence du pasteur Richard Cadou parmi nous. Merci beaucoup Richard pour ta présence, pour ta prédication et pour ta tendresse fraternelle. Il est des bénédictions, c'est l'occasion d'une rencontre familiale et nous souhaitons que la suite de la rencontre de la famille Monod soit marquée du sceau de cette joie, de cette amitié. Nous vous souhaitons un excellent moment. Il est des bénédictions qui sont ces rencontres que nous faisons, inattendues et porteuses d'une véritable grâce. La tendresse de l'Éternel, notre Dieu, est sur chacun d'entre nous. Il a fermé l'ouvrage de nos mains. Il intensifie l'ensemble de notre vie quotidienne. Amen.